franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, un voyage en Sibérie qui nous emmène quand même 90 000 ans en arrière.
Oui, et c'est précisément sous le massif de l'Altaï, dans la grotte de Denisova, que nous allons. Un site qui, depuis une vingtaine d'années, fournit de tout petits bouts d'os toujours très intéressants.
Alors pourquoi des petits bouts d'os ?
Une petite dent par ici, un morceau de phalange par là, qui ensemble ont permis en 2008 de définir un nouveau groupe humain, par exemple les Denisoviens, contemporains de l'homme de Néandertal. Et la semaine dernière, une découverte encore plus rare, un petit éclat d'os de quelques centimètres, celui d'une jeune fille dont le père était Denisovien et la mère néandertalienne. Jean-Jacques Hublin, bonjour.
Bonjour Axel.
C'est avec vous que nous allons parler de cette jolie métisse. Vous êtes paléontologue à l'Institut Max Planck en Allemagne et ce sont vos collègues de Leipzig qui ont publié cette découverte. Alors pourquoi est-ce qu'une enfant issue directement de deux groupes humains différents comme ici est si sensationnelle pour votre discipline ?
Bien, cette découverte est sensationnelle à plusieurs titres. D'abord la façon dont on a découvert, identifié ce fossile. Et puis surtout, depuis qu'on pratique la paléogénomique, c'est-à-dire de l'ADN fossile, on sait qu'il y a des phénomènes d'hybridation entre des groupes comme les Néandertals, les Denisoviens et les Homo sapiens qui sont nos ancêtres. Mais ce qui est étonnant dans ce cas-là, c'est que on a, si je peux dire, attrapé ce qu'on appelle dans le jargon un hybride de première génération, c'est-à-dire la première génération issue de la rencontre de deux êtres mâles et femelles appartenant à deux groupes distincts.
Oui, parce que c'est bien en étudiant l'ADN qu'on peut dire qu'elle est 50% néandertalienne et 50% denisovienne. Mais du coup, Jean-Jacques Hublin, est-ce qu'elle est néandertalienne ou denisovienne ? On prend quel genre à l'époque ? Celui du père ou de la mère ?
Non, c'est un beau mélange, hein. C'est la magie de la reproduction sexuée, hein. C'est-à-dire c'est une recombinaison d'une moitié, en gros, de l'ADN de l'un et de l'ADN de l'autre.
Est-ce qu'elle a un nom, cette adolescente, Jean-Jacques Hublin ?
Pas que je sache, non. Enfin, moi, j'en entends parler depuis assez longtemps à la cantine de l'Institut Max Planck de Leipzig. Mais donc, on attendait tous cette publication de quelque chose qui est assez extraordinaire, mais je ne crois pas qu'elle ait de petits noms pour l'instant.
Alors, ce qui est impressionnant quand même, Jean-Jacques Hublin, c'est que dans cette grotte de Denisova, on ne trouve aucun squelette, aucun joli crâne, seulement de tout petits bouts d'os, parfois animaux, et qui ont permis de grandes avancées scientifiques depuis 20 ans quand même.
Alors, on trouvera peut-être un jour un beau fossile, un beau crâne, une belle mandibule. Le monde de la paléanthropologie est en train de changer très vite en ce moment. Autrefois, effectivement, le rêve de tous ces chercheurs, c'était de mettre la main sur un beau fossile qui finirait dans un musée. Mais il faut dire qu'avec le soin qu'on apporte aujourd'hui aux fouilles archéologiques, la probabilité de trouver ce genre de pièces exceptionnelles, eh bien, devient très très faible. Et donc, on est parti vers d'autres méthodes, et en particulier des méthodes moléculaires, qui permettent d'identifier l'espèce à laquelle appartiennent des tout petits fragments osseux. Et ces fragments osseux, dans ces grottes qui ont été habitées par l'homme paléolithique, on en trouve des milliers, des dizaines de milliers. Et une méthode que l'on appelle la méthode ZOOMS, qui est l'utilisation de la spectrométrie de masse pour analyser le collagène des os, permet de façon rapide et assez peu coûteuse de traiter des milliers de fragments osseux. Et c'est comme ça qu'on trie ces vestiges et qu'on peut identifier des morceaux d'os qui paraîtraient à n'importe qui complètement insignifiants, mais qui sont humains et du coup que l'on peut analyser avec d'autres méthodes pour par exemple extraire l'ADN.
Alors on parle souvent de Néandertal, de Denisova ou même de Sapiens, nous, comme de différentes espèces d'humains. En fait, ils se sont souvent reproduits entre eux, on découvre de plus en plus d'hybridation. Est-ce qu'on peut toujours parler d'espèces au sens strict ?
Alors, les paléontologues parlent volontiers d'espèces paléontologiques, parce que ce sont des entités que l'on peut identifier sur le plan morphologique, hein. Ce sont des anatomies assez différentes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion même d'espèce est quelque chose qui, aujourd'hui, est en train de devenir de plus en plus flou, si je peux dire. C'est-à-dire que l'idée simple que les espèces sont définies par l'impossibilité de reproduction, c'est une idée, dans le fond, qui est un peu simpliste. C'est-à-dire que cette barrière de la non-interfécondité, c'est une barrière qui met des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années à s'établir. Et on se rend compte aujourd'hui, parce qu'on peut séquencer le génome de nombreuses créatures, que chez des mammifères un peu comme nous, hein, de notre taille, si je peux dire, eh bien, c'est un phénomène très très courant entre des êtres proches, un bison, une vache, un ours polaire, un ours brun, différentes espèces de dauphins, de baleines, etc. Eh bien, ces phénomènes d'hybridation sont en fait assez courants, et donc les groupes humains qui se sont différenciés au cours, disons, des derniers 500 000 ans, n'échappent pas à ce phénomène. On peut les voir comme des espèces en formation. Et cette barrière de l'incompatibilité génétique, ben, c'est une barrière qui s'établit progressivement avec une perte graduelle de fécondité des hybrides.
Allez, dernière question pour Jean-Jacques Hublin, Axel.
Oui, l'histoire de cette grotte de Denisova qu'on découvre petit à petit et de ces hybridations, qu'est-ce qu'elle change sur notre vision de notre lignée, nous les sapiens?
Alors ce qui est intéressant, c'est que Denisova, c'est un site qui est un petit peu sur la frontière, en fait, entre le monde des Néandertaliens, qui est un monde qui est à l'ouest, l'Europe, une partie de l'Asie centrale, et puis un monde plus à l'est, qui est celui des Denisoviens. Et c'est pour ça qu'on trouve ces traces d'aller-retour, si je peux dire, entre ces populations qui ont toutes les deux fréquenté le même site et qui se sont hybridées. Probablement que si on pouvait pratiquer le même genre de recherche chez des Néandertaliens du Périgord d'il y a 80 000 ans ou des Denisoviens du milieu de l'Asie de la même époque, on ne trouverait pas ces hybrides. Hein, parce que ces populations se trouvent loin de cette zone frontière. Alors avec notre espèce, ce qui est particulier, c'est que notre espèce, elle a remplacé toutes les autres. Et donc c'est une espèce de nappe qui s'est répandue sur le territoire et des Néandertaliens et des Denisoviens. Et donc là, ces phénomènes d'échange de matériel génétique, eh bien, ont été beaucoup plus fréquents, en tout cas sur une aire géographique beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que vous et moi, eh bien, nous portons en moyenne à peu près 2% d'ADN néandertalien.
Voilà, et d'ailleurs on peut tirer un coup de chapeau à Svante Pebe, hein, Jean-Jacques Hublin et à ses équipes qui sont à l'origine à nouveau de cette découverte, donc de cette jeune fille mi-néandertalienne, mi-denisovienne et qui était aussi à l'origine du métissage entre Homo sapiens et Néandertal. Merci beaucoup à vous Jean-Jacques Hublin et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les ravages de l'alcool mis en lumière par une nouvelle étude d'envergure. Le groupement international GBD vient de mettre à jour les données de santé mondiale liées à l'alcool en compilant une centaine d'études. Résultat, les boissons alcoolisées seraient responsables de 2,8 millions de morts par an dans le monde, majoritairement en Europe. En France, sixième pays au classement des buveurs, 93% des hommes et 87% des femmes se déclarent consommateurs et la moitié de l'alcool vendu est consommé par 8% des buveurs. L'étude permet aussi de déconstruire une idée reçue, boire même très peu a un impact négatif sur votre santé. Autrement dit, il n'existe pas de consommation sans risque. L'éléphant, comme les gros mammifères marins, est bien armé contre le cancer. Une étude parue fin août dans la revue Cell permet de lever ce que les scientifiques appellent le paradoxe de Peto. Au vu de leur taille et du nombre de cellules de leur corps, les éléphants devraient théoriquement développer de très nombreux cancers. Or, ça n'est pas le cas. Et justement, c'est grâce à deux types de gènes protecteurs dont nous sommes dépourvus. L'un d'eux, le gène LIF6, découvert ce mois-ci, aurait été ressuscité à l'intérieur du génome des ancêtres des éléphants comme les mammouths lorsqu'ils ont commencé à grossir au fil de l'évolution. Les chercheurs l'ont surnommé le le gène zombie. Et puis pour terminer en vidéo, nous vous proposons de découvrir le filtre inversé. C'est une innovation technique intrigante. L'idée d'un filtre classique comme un filtre à café est de laisser passer les petits corps et de bloquer les gros morceaux. Et bien des chercheurs de l'université de Park dans le Kansas ont réussi à faire l'inverse, c'est-à-dire une membrane élastique et fluide qui bloque les molécules et les corps de petite taille mais laisse passer les gros. Ça paraît totalement contre-intuitif, semblable à une pellicule de savon. Elle permettrait par exemple de protéger une plaie pendant une chirurgie ou d'imaginer des toilettes sans eau qui retiennent les mauvaises odeurs. En tout cas, la vidéo est à voir sur la page Facebook de l'émission.